je vous remercie d'être si nombreux donc ici aujourd'hui et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Voilà. Donc en fait, de quoi on va parler? On va parler effectivement de l'eau en tant qu'aliment et comment on en arrive à ce que cette eau, ce verre d'eau soit un aliment bon, en tout cas pas néfaste pour la santé. En fait, je suis particulièrement heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui et c'est vraiment un plaisir de faire ce genre d'intervention parce qu'on entend tellement de choses à la radio tous les jours. Il n'y a pas un jour où on n'entend pas parler de l'eau, mais toujours sous l'aspect scandale, hein, toujours anxiogène, toujours voilà, sur l'aspect négatif. Et vraiment, les médias, ce que je constate, c'est que les médias vraiment nous présentent qu'un aspect de la chose. Et je voulais profiter justement de ce genre d'intervention pour vous présenter le sujet dans sa globalité, en fait. Le contexte, et que vous compreniez mieux, en fait. Quand vous lisez un article et que vous vous fassiez aussi votre propre, surtout votre propre opinion. Je pense que c'est vraiment très, très important. Donc, je vous donne, on va commencer par un premier exemple, justement, comme quoi les médias ne parlent que de choses anxiogènes et que de l'aspect négatif. Là, je vais vous présenter un extrait du titre d'une émission de France Culture en mai dernier, où j'étais invité. Et où bah vous allez voir d'après le titre, enfin d'après ce que l'introduction de cette émission, déjà on sent comment c'est orienté. Et puis bah effectivement j'ai eu beaucoup de mal à faire passer le message que je voulais faire passer, puisque dès que j'allais pas dans la direction qui était souhaitée, bah j'étais coupé quoi. Et voilà. Et à France Culture, c'était associé avec le journal Le Monde. Alors je m'étais dit, bon, bah là, au moins, on va pouvoir un peu parler de choses réelles. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc on va écouter l'introduction de cette émission.
Eau potable, aux sources d'une catastrophe sanitaire, écologique et économique. L'eau est un bien commun à préserver, une ressource vitale pour l'humanité. Et pourtant, elle est mise à mal par diverses pollutions et contaminations anthropiques. Elle devient un sujet de santé publique qui rythme de plus en plus l'actualité ces dernières années et qui nourrit, bien sûr, des inquiétudes du côté des citoyens qui ne demandent qu'à être mieux informés pour mieux agir, voire réagir.
Voilà, donc déjà on voit le titre, ça fait peur. Hein. Enfin en tout cas, ouais, voilà. On sait qu'on va avoir peur pendant l'émission. Donc ça, c'est des exemples d'émissions radio. Les émissions télévisées, c'est la même chose. Et je vous parle pas de tous les articles donc qui paraissent chaque jour avec bien sûr tous les titres. Gentil, au secours, la pollution de moins en la ouais, la pollution de moins en moins potable. Les alertes à la pollution de l'eau potable se multiplient en France. Du poison dans l'eau du robinet. Enfin voilà, voilà tous les genres de titres auxquels on est confronté dans la presse. Bon, ce qui fait que bah voilà, on voit que l'aspect négatif de notre verre d'eau et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Nos distributeurs d'eau en sont amenés à essayer de nous rassurer. Donc, ils essaient de faire là, des campagnes d'affichage. Là, c'est une campagne de Grand Poitiers et de Haute-Vienne, donc en mai dernier, là aussi, qui essayaient de nous montrer le nombre d'analyses faites dans l'eau potable pour nous rassurer. Bah, le public, malheureusement, ne sait toujours pas ce qu'il y a dans son verre d'eau. Juste pour commencer un peu en décontracté, ce qui m'a fait un petit peu sourire, c'est que donc cette affiche est dans mon village et elle était affichée Route de la bière. Donc je ne savais pas trop quoi en conclure. On y va. Donc voilà, l'objet de mon intervention aujourd'hui, c'était voilà, de vous présenter le sujet dans sa globalité, vraiment, de rappeler les bases du traitement et comment on en arrive à notre verre d'eau potable, afin que vous fassiez votre propre opinion. Donc bah, vous verrez, vous penserez toujours peut-être qu'il y a beaucoup trop de polluants dans votre verre d'eau. Peut-être que vous serez rassuré. En tout cas, j'espère que vous pourrez vous faire votre propre opinion. Donc j'avais envie de dire, vous verrez peut-être le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais bon, ça c'était trop facile. Alors j'ai choisi ce petit dessin là. Donc il y en a qui voient un lapin, il y en a qui voient un canard. Voilà, donc à l'issue de cette présentation, bah, vous verrez dans votre verre d'eau ce que vous avez envie de voir. Parce que à l'heure actuelle, aujourd'hui, à écouter tout ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on pense qu'il y a dans notre verre d'eau ? Eh ben, on a l'impression qu'il y a de l'eau. Voilà, il y a de l'eau. Et puis, ben, il y a toute une mixture de polluants qu'on entend encore une fois tous les jours. On entend parler de tous ces polluants qu'il y aurait dans notre verre d'eau. Avec ce que j'appelle, donc, sur la droite, mes polluants, mes micropolluants stars, les plus médiatiques en ce moment. Donc, il y a des modes. Donc, il y a les pesticides. En ce moment, c'est les PFAS, donc les PFAS, les composés fluorés. On a entendu parler du chlorothalonil, le chlorure de vinyle qui vient des canalisations, les microplastiques. Enfin, voilà, c'est en ce moment, à l'heure actuelle, ce sont nos polluants stars, je dirais. Et la difficulté, c'est qu'effectivement, on n'est pas capable de savoir ce qu'il y a dans notre verre d'eau. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ben, c'est, je dirais, on va aller à la recherche de l'invisible. Donc, on va aller voir on va essayer de trouver ce qu'il y a réellement dans notre verre d'eau. Je voulais juste, c'est à titre personnel, commencer par tâter un peu la salle en vous posant une question. Quels sont ceux qui ont confiance en en l'eau du robinet, c'est-à-dire qui la boivent sans aucune... Ah là ! Ah, c'est beaucoup plus que ce que je croyais. Donc vous la buvez sans inquiétude, sans crainte. Ou en tout cas, vous dites, il y a pire. Non, mais d'accord, ok. Ok, ok. Bon, c'est surprenant, je ne croyais pas que c'était la large majorité. On verra si vous êtes conforté dans cette idée ou si au contraire j'en ai rajouté une couche. Peut-être que je vais en rajouter une couche, je ne sais pas. Peut-être que vous allez sortir de la salle complètement démoralisé. Donc on va passer à la suivante. Donc de quoi je vais essayer de vous parler ? Donc je vais encore une fois essayer de revenir à l'origine. D'où vient notre verre d'eau ? Donc quelles sont les ressources qui sont utilisées pour produire cette eau du robinet ? Quels sont les traitements que l'on applique, les traitements classiques, et puis quels sont les traitements qui sont destinés à éliminer ces fameux micropolluants. Et ces micropolluants, ben, d'où ils viennent voilà. De quoi on parle. Ensuite, je vous dirai quelques mots sur les normes de potabilisation, donc c'est-à-dire à partir de quel moment on a le droit de dire, enfin nos distributeurs ont le droit de dire que c'est une eau potable. Et puis, bien sûr, je vous parlerai des progrès et des avancées, c'est-à-dire l'état actuel des connaissances. Et puis, on pourra lever des questions, des pistes. Est-ce que la situation peut être améliorée ? Comment ? Quelles sont les pistes, les problématiques et les choix à faire ? Donc, commençons par la composition de l'eau qui nous sert à produire cette eau potable. Donc en fait, vous le savez tous, ça, hein, on a deux ressources d'eau qui sont utilisées pour produire de l'eau potable. Donc on a ce qu'on appelle les eaux superficielles ou les eaux de surface. Donc ce sont les eaux de rivière. Pourquoi on appelle ça les eaux de surface ? C'est parce qu'ils sont en contact, elles sont en contact direct avec l'atmosphère et avec l'activité humaine. Et puis on a donc les eaux souterraines. Les eaux superficielles, donc les eaux de rivière, en fait, servent à l'alimentation entre 30 et 40% de l'eau potable. Donc c'est un peu minoritaire par rapport aux eaux souterraines, qui sont quand même les ressources majoritairement utilisées pour produire de l'eau potable. Mais bon, la marge n'est pas énorme, hein, on est entre 30 et 40% pour les eaux superficielles et le reste bon, pour les eaux souterraines. Donc, commençons par les eaux de rivière, parce qu'en fait, ce sont les, comme je vous disais, elles sont en contact avec l'activité humaine, et ce sont, même à l'œil nu, ce sont les plus chargées en pollution. En tout cas, la pollution est visible. Donc, que contiennent ces eaux de rivière? Donc, elles sont chargées en matière organique, la plupart du temps d'origine naturelle, dissoute ou particulière, enfin les deux en fait, dissoute et particulière. Donc, on voit bien les eaux de rivière qui sont colorées et qui, bah, de temps en temps, enfin, sont quand même turbides, et donc on voit bien qu'il y a en plus des particules. Donc d'où vient cette matière organique? Donc elle vient, encore une fois, majoritairement quand même d'origine végétale, des compositions des végétaux. Elle provient aussi des rejets de stations d'épuration, puisque les stations d'épuration se rejettent dans les rivières. Elles proviennent aussi du ruissellement qui a lieu sur les sols, et puis des déjections d'animaux, et donc elles sont aussi chargées en micro-organismes. Mais encore une fois, elles viennent quand même en grande partie de la décomposition des végétaux, et donc elles contiennent des molécules classiques, hein, des lipides, des protéines, des sucres, de la lignine, décomposition des végétaux, donc tout un tas de molécules complexes, et elles sont présentes en forte quantité. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que cette matière organique est présente en forte quantité, et la preuve, on le voit d'après la couleur. Mais en fait, en elle-même, cette matière organique, elle n'a pas forcément un impact important sur la santé. Elle n'aurait pas, c'est pas elle qui poserait un problème sur la santé si on buvait cette eau. En tout cas, pas immédiatement, ou si ponctuellement on buvait cette eau, c'est pas cette matière organique qui nous créerait un problème sur la santé. Donc la deuxième ressource, donc c'est l'eau souterraine, qui est, on le sait bien, bien plus protégée, puisqu'elle est protégée par une couche de sol et de matériaux avant les nappes, et donc elle est plus limpide et elle est beaucoup moins chargée en cette matière organique d'origine naturelle, parce qu'elle n'est pas en contact direct, encore une fois, avec l'activité animale et humaine. Donc elle est plus faiblement chargée en matière organique, mais elle contient quand même de la matière organique, parce qu'en plus, elle est quand même en relation aussi, il y a des relations entre les rivières et les nappes souterraines. Donc ce n'est pas une eau qui est complètement pure. Donc premier constituant de nos ressources en eau, la matière organique, et en relativement forte quantité. Deuxième constituant, donc les composés minéraux, donc le calcium, magnésium, sodium, donc ça, qui sont présents à la fois dans les eaux souterraines et dans les eaux de rivière, donc dans toutes les ressources en eau. Donc ces deux composés constituants dont je viens de parler, la matière organique et les constituants minéraux, en eux-mêmes, ils ne sont pas problématiques directement pour la santé. Donc ce n'est pas ça qui pose problème. Troisième élément, ce sont les micro-organismes. Et là, les micro-organismes, s'il y a vraiment un élément qu'il faut traiter dans l'eau avant de le boire, tout à l'heure je vous ai dit, vous pouvez boire votre eau de rivière. Non, c'est pas la matière organique qui va vous rendre malade, mais ce sont les micro-organismes pathogènes. Donc le premier élément à traiter dans une eau, et incontournable, ce sont les micro-organismes pathogènes. Donc ça, c'est vraiment l'étape incontournable du traitement d'eau. Ça sera la désinfection. Et cette désinfection, on l'applique en fin de filière de traitement de l'eau, afin que le désinfectant qu'on utilise, notamment donc l'eau de Javel, persiste et soit efficace jusqu'au robinet du consommateur. Quatrième élément, les micropolluants. Donc on va en parler, bien sûr. Je ne dis pas que dans la rivière, il n'y a pas de micropolluants. Donc ces micropolluants dont on parle et qu'on, soi-disant, qu'on retrouve dans notre eau, dans notre verre d'eau, ce sont les pesticides, tout un tas de composés qui sont des perturbateurs endocriniens, donc des hormones, des cosmétiques, des biocides, les fameux PFAS, donc composés perfluorés persistants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces composés, donc ce qu'on appelle micropolluants, c'est pas parce que c'est des tout petits composés, c'est qu'en fait ils sont présents en très faible quantité, c'est pour ça qu'on utilise le terme micro, ils sont présents donc à des concentrations 1000 fois plus faibles que la matière organique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ce sont des composés, certes, qui peuvent présenter des notions de toxicité, mais qui sont présents à très très faible quantité. Donc encore une fois, il y a un facteur 1000 par rapport à la matière organique. Et puis de temps en temps, ben, il y a un cinquième groupe de composés que l'on doit éliminer, mais ça dépend des types de ressources. Donc ce sont quelques composés inorganiques spécifiques, comme les nitrates, le fer ou le manganèse, ou les métaux lourds, qui dans certains cas sont présents et qui doivent être éliminés. Donc en résumé, retenons quatre constituants de nos eaux, hein, que ce soit les eaux de surface, donc de rivière, ou les eaux souterraines. On a les composés minéraux et inorganiques donc, qui sont bénéfiques pour la santé et donc sur lesquels on ne va pas toucher. Par contre, les trois autres catégories de constituants, ce sont ces trois catégories que le traitement d'eau potable va viser. Donc en priorité, je vous ai dit les micro-organismes pathogènes, hein, uniquement ceux qui sont dangereux pour la santé. Hein, on ne va pas délivrer une eau stérile, hein, on délivre une eau désinfectée, donc dépourvue de bactéries pathogènes qui pourraient rendre malade. Deuxième catégorie, on va quand même chercher à éliminer la matière organique présente en forte concentration, même si je vous ai dit que ce n'est pas elle qui forcément pose le plus gros problème. Pourquoi on va chercher à l'éliminer? Ben parce qu'on ne serait pas content déjà de boire une eau turbide, une eau colorée, en plus une eau qui aurait un goût. Et en plus, puisqu'on va justement utiliser une désinfection avec un agent chimique, donc avec l'eau de Javel, le risque c'est que cette eau de Javel réagisse avec cette matière organique si elle est présente en trop forte concentration, et pourrait conduire à des composés qui, eux, pourraient être néfastes pour la santé. Donc l'objectif, quand même, dans le traitement d'eau, c'est d'éliminer une grosse partie de cette matière organique des eaux de rivière qui est présente à une concentration particulièrement importante. Troisième catégorie auquel donc, le traitement d'eau va s'intéresser, donc les micropolluants, donc, dont on entend parler quotidiennement, comme je vous disais tout à l'heure en introduction, et qui sont par contre présents en très très faible quantité, donc 1000 fois plus faible que la matière organique. Donc il faut bien avoir en tête. Et qu'est-ce qu'on entend dans les médias? Ben, on n'entend parler que des micropolluants. Voilà, on n'entend pas parler du reste. Mais le traitement d'eau, pour rendre votre eau potable, doit éliminer et doit s'intéresser aussi aux deux autres éléments, donc les micro-organismes et la matière organique. Donc, partons d'une eau la plus compliquée à traiter, je dirais une eau de rivière. Donc, elle est, comme je vous disais, chargée en particules et puis en matière organique dissoute à forte concentration. Et donc, le premier traitement que l'on va appliquer à cette eau, ça va être donc d'éliminer cette quantité importante de matière organique. Et on va l'éliminer donc par le procédé qu'on appelle coagulation, flocculation, décantation. Et ensuite, on fait une filtration à sable pour retenir les particules qui resteraient dans cette eau. Ensuite, vous allez voir, on obtient une eau relativement limpide, enfin très limpide même, et on pourrait s'en tenir à ça, à cette étape, et appliquer une étape de désinfection. C'est ce qu'on a appliqué il y a jusqu'à les années 1980. On appliquait uniquement ces étapes de traitement. Donc coagulation, flocculation, décantation, filtration et désinfection. Donc on visait élimination de la matière organique et désinfection. Parce que jusqu'à, encore une fois, les années 1980, on entendait peu parler de micropolluants. Donc première étape incontournable, donc élimination de cette matière organique présente en forte concentration, donc d'origine naturelle, mais qu'on doit quand même éliminer puisque, encore une fois, elle pourrait réagir avec l'eau de Javel. Donc on va chercher à l'éliminer pour rendre l'eau limpide. Et donc je vais vous expliquer un peu comment ce procédé fonctionne, donc la coagulation-flocculation. C'est un procédé donc, qui s'est surtout développé à partir des années 1950, je dirais, qui a commencé à être courant. Donc on part d'une eau de rivière, encore une fois, plutôt turbide et pas très appétissante, et avec de la matière particulière, certes, mais aussi beaucoup de composés dissous. Et on se dit, bah, comment éliminer ces composés dissous? Puisque si on utilise un filtre, puisque c'est dissous, ça va passer à travers. Comme si vous ayez filtré votre tasse de thé ou de café. Donc on utilise un procédé donc, qui s'appelle coagulation-flocculation et que moi je trouve vraiment formidable parce qu'on va réussir avec ce procédé à convertir de la matière dissoute donc, en particules qu'on va pouvoir ensuite éliminer. Et ça grâce à l'ajout d'un réactif, donc c'est un sel de fer ou d'aluminium, que l'on va ajouter dans l'eau, voilà. Donc, on ajoute notre réactif dans notre eau, on agite pour mettre en contact notre réactif et notre eau. Et ce réactif a la propriété de changer les propriétés de la matière organique dissoute pour la faire s'agréger et donc former des flocs. C'est pour ça qu'on appelle la coagulation-flocculation. Donc, notre matière organique initialement dissoute va devenir particulière grâce à ce réactif et va pouvoir ensuite décanter. Donc c'est un procédé qui vraiment permet d'éliminer une grosse partie de la matière organique. Et vous voyez bien, on a en surnageant une eau parfaitement limpide, alors qu'avant elle était couleur de la rivière. Et il suffit donc de laisser décanter les particules et de récupérer l'eau limpide donc en surnageant. Et puis une filtration, au cas où il resterait donc des particules en suspension, on fait succéder cette étape à une étape de filtration sur sable, tout simplement. Donc voilà, cette étape déjà, elle est, je dirais, performante et spectaculaire, c'est-à-dire qu'on part d'une eau très chargée en composés organiques et on arrive et colorée et on arrive à une eau parfaitement limpide. Donc pour résumer et puis rentrer un peu dans les chiffres, donc on part d'une eau de rivière. Je vais vous parler pour l'instant chargée, pas chargée, des traces et 1000 fois plus faible, etc. Mais je vous donnais pas de chiffres. Donc si je rentre un petit peu plus dans le détail en termes de chiffres, j'ai fait des ordres de grandeur, hein, c'est des moyennes. Quand on prend une eau de rivière, on va se dire qu'on a à peu près 10 mg par litre de composés organique, donc de cette matière d'origine végétale ou animale, dans notre eau. Après l'étape de coagulation-flocculation, cette étape élimine environ 80% de cette matière organique. On ne cherche pas à éliminer tout, hein, parce que, comme je vous disais, en elle-même, cette matière organique, elle pose pas de problème. Elle pose le problème juste parce que ça présente des goûts, parce que c'est turbide, et puis parce que ça risque de réagir avec l'eau de Javel. Mais d'éliminer 80% pour arriver à des teneurs de l'ordre de 1 à 2 mg par litre, c'est tout à fait raisonnable comme efficacité du traitement. Donc si on part d'une eau de rivière et qu'on applique ce procédé de coagulation-flocculation, en fait, on arrive à une eau de qualité comparable à une eau souterraine. C'est-à-dire que notre eau souterraine, comme je vous disais tout à l'heure, elle est déjà limpide. On n'a pas besoin de lui appliquer la coagulation-flocculation parce qu'elle est limpide et elle est beaucoup moins chargée en composés organiques. Donc, en fait, on applique cette coagulation-flocculation uniquement sur les eaux de rivière et on arrive encore une fois à des eaux de qualité équivalente finalement à une eau souterraine. Donc, on arrive après ce premier traitement, que ce soit en eau souterraine ou en eau de rivière, à des teneurs de l'ordre de 1 à 2 mg par litre de composés organiques. C'est bon. De composés organiques. Mais à ça, je vous ai dit, il y a trois éléments qu'il faut traiter dans l'eau potable. Donc, la matière organique, les micro-organismes et les micropolluants. Donc, à cette teneur en matière organique, il ne faudra pas oublier que par le procédé de coagulation-flocculation, on n'a pas éliminé ces micropolluants qui, eux, sont présents à très faible quantité. Donc les micropolluants sont présents, encore une fois, à l'ordre de 1000 fois plus faible. Et donc, ça, autant les composés organiques, c'est de l'ordre de 1 à 2 mg par litre, les micropolluants, c'est de l'ordre du microgramme par litre. Donc 1000 fois en unité, 1000 fois plus faible. Donc si on ne s'intéressait pas au traitement de ces micropolluants, et c'était le cas encore une fois jusqu'à la plupart des installations jusqu'à dans les années 1990, ben, il suffirait de faire suivre cette étape de coagulation-flocculation par une étape de désinfection, et l'eau, on obtient une eau potable. Tant qu'on n'a pas vu pu, su mettre en évidence la présence de micropolluants, on n'appliquait que ces étapes simples de traitement. Donc, pour les eaux de rivière, coagulation, flocculation, décantation. Et pour les eaux souterraines, filtration et désinfection, bien sûr, finale, pour tous les types d'eau, désinfection obligatoire. Donc, c'était une filière quand même complexe, hein, parce que la coagulation, flocculation, ce n'est pas simple à mettre en œuvre. Mais voilà, c'était, globalement, il y avait deux étapes de traitement. Donc, par contre, aujourd'hui, et depuis quelques décennies, je dirais, il va falloir qu'on s'intéresse à éliminer ces micropolluants. Donc, ces micropolluants, de quoi on parle? Quelle est leur origine? Je regarde l'heure. Quelle est leur origine? D'où ils viennent? Donc, on va examiner cet aspect-là du traitement de l'eau. Donc, pour un rappel, notre eau que l'on va donc transformer en eau potable, elle est prélevée dans la rivière. Et l'idée qu'on en a priori, c'est que dans cette rivière, la rivière, elle est en contact du ruissellement et donc des pesticides et des produits agricoles. Et donc, notre filière d'eau potable, elle va certes traiter la matière organique turbide, donc des eaux de rivière, et puis elle va être confrontée aussi à éliminer des pesticides, majoritairement. C'est ce qu'on pensait jusqu'aux années 2000, je vais dire, peut-être un petit peu avant, mais voilà, on se disait, quand on a commencé à mettre en évidence les polluants, les micropolluants, on s'est dit, on va s'attaquer aux pesticides, c'est eux qu'on voyait majoritairement. Donc on n'entendait parler que de pesticides il y a 30 ans. Sauf que cette eau potable, donc, c'est notre eau qui arrive au robinet, et cette eau, elle est utilisée, donc elle est mise à disposition des villes, des campagnes, des habitations domestiques, et elle est utilisée pour plein d'activités et d'usages. Donc en fait, cette eau, on la charge, on sait bien tous qu'effectivement, cette eau, elle est utilisée pour les WC, mais elle est aussi utilisée pour les douches, pour le lavage des rues et dans les milieux industriels. Donc cette eau, on sait la traiter, cette eau qui devient donc de l'eau usée. L'eau potable, une fois qu'elle est utilisée, passe dans les égouts et devient une eau usée. Et donc elle est traitée par ce qu'on appelle les stations d'épuration. Et on sait que ces stations d'épuration donc, jouent leur rôle. Sauf que les stations d'épuration, elles ont été conçues et elles sont basées sur des procédés de biodégradation. Et elles ont été conçues pour éliminer la majorité des polluants, mais ceux présents en forte concentration, donc issus des urines, des excréments, de nos eaux de lavage de main, des savons, et voilà, de la pollution particulière aussi. Elles ont été conçues pour ça. Sauf que, ce que je vous ai dit, notre eau potable, on l'utilise aussi tous chacun d'entre nous. On l'utilise aussi. On met notre eau est utilisée avec des savons, avec des parfums, des composés de plus en plus sophistiqués, je dirais, des conservateurs. Et ce qui fait que dans cette eau qu'on rejette et qui arrive à la station d'épuration, eh bien, il n'y a pas que des excréments, de l'urine et des particules. Il y a ces composés-là qui sont présents en très faible concentration et pour lesquels la station d'épuration ne va pas éliminer tous ces composés. Donc la station d'épuration, une fois épurée, l'eau de la station d'épuration retourne à la rivière. Et malheureusement, le prélèvement d'eau potable dans la rivière de la station d'eau potable qui va arriver en aval, elle va se récupérer toutes ces molécules qui ont été déversées et qui n'auront pas été traitées entièrement par la station d'épuration. Donc les molécules qu'on va retrouver dans la rivière et qui devront être traitées par la station d'eau potable, ce n'est pas uniquement les ruissellements agricoles, ce n'est pas uniquement les rejets industriels, mais c'est aussi tous nos rejets à nous qui n'auront pas été pu être entièrement épurées parce qu'on utilise, encore une fois, dans nos cosmétiques des conservateurs, on utilise des médicaments, on va en reparler, et voilà, toute une sorte une quantité importante de composés, très diverses, mais par contre présents en très faible concentration, et pas forcément biodégradables, donc qui ne sont pas éliminés par la station d'épuration. Donc si on regarde un peu le schéma en haut à droite, en fait c'est un cercle, hein, donc on prélève dans la rivière pour faire de l'eau potable, on utilise cette eau potable, donc, et l'activité humaine fait que la station d'épuration doit épurer plein de composés avant rejet dans la rivière. Mais voilà, est-ce que tous les composés sont épurés? Et donc l'eau potable qui est prélevée, pour laquelle on prélève dans la rivière, bah, doit s'intéresser et est confrontée à toute cette multitude de composés. Donc d'où viennent ces composés? Quels sont-ils? Bon, je les ai déjà un petit peu cités, hein, bah, c'est les cosmétiques, les constituants de crème, hein, que quand on prend notre douche, ben, les crèmes repartent dans les égouts, les gels douches, on n'utilise plus des simples savons comme il y a 50 ans, les gels douches sont sophistiqués, avec des conservateurs, des antioxydants. On utilise tous des médicaments, je ne dis pas qu'il y a 50 ans on n'utilisait pas de médicaments, mais quand même moins, ou on en reparlera, on ne les utilisait pas forcément chez nous. Donc des résidus de médicaments qui vont se retrouver également dans les égouts, même si encore une fois c'est pas de jeter le médicament dans la chasse d'eau qui va polluer, c'est de rejeter nous-mêmes une partie des médicaments, et on va en reparler tout à l'heure. Et je parle pas donc des produits ménagers, les pesticides. Bon, les pesticides, effectivement il y a les agriculteurs et on en utilise moins chez nous. Mais n'empêche que dans nos eaux de rivière, on retrouve des composés qui sont utilisés comme antipuces, les pipettes antipuces qu'on met sur nos animaux domestiques, hein, sur nos chiens et nos chats, et ben, on les retrouve dans les rivières. Pourquoi? Parce qu'on se lave les mains, parce qu'on lave le toutou, et donc ces composés, et ben, on les retrouve on les évacue dans la station d'épuration, et on les retrouve dans la rivière. Donc voilà, pour vous dire que nous-mêmes, on est aussi responsables de certains composés que l'on trouve dans les rivières et auxquels on va être confronté pour rendre cette eau de rivière potable. Donc dans le cas des cosmétiques et des produits d'hygiène, bah, il suffit que vous regardiez un peu vos étiquettes, hein, vous allez trouver des conservateurs, donc des composés qui contiennent du parabène, et puis des mots un peu compliqués, benzophénone, donc des composés aromatiques, et tout ça qui sont considérés comme des micropolluants néfastes pour l'environnement. Et donc, pour résumer, concernant les cosmétiques, en fait, les usages domestiques sont à 95% émetteurs, sont pour 95% responsables de l'émission des cosmétiques et de certains conservateurs dans les égouts. Ce n'est pas la fabrication industrielle, ce sont nos usages à nous. Dans le cas des médicaments, si je vais prendre un deuxième exemple, donc celui des médicaments. En fait, une étude récente montre que, en fait, la consommation moyenne de médicaments par habitant, c'est 41 boîtes donc de médicaments achetées par habitant et par an. Donc c'est une étude, c'est une consommation en 2023. Parmi tous ces médicaments, une étude a montré que le deuxième antalgique le plus consommé, c'est l'ibuprofène. Et donc la quantité moyenne par habitant qui est utilisée, donc d'ibuprofène, m'a fait faire un petit calcul. Pour le cas de l'agglomération de Poitiers, on consommerait 66 boîtes d'ibuprofène par jour sur Poitiers. Ce qui représente, donc pour l'agglomération de Poitiers, 120 kg par an d'ibuprofène donc consommé sur l'agglomération de Poitiers. Donc ce médicament, dans le cas de l'ibuprofène, mais c'est dans le cas de tous les médicaments, quand on le prend, Certes, il va se métaboliser dans le corps et il va être transformé, mais pas entièrement, pas à 100%. On va toujours avoir un résiduel de médicaments qui va être rejeté donc dans les excréments ou dans les urines. Donc ce résiduel d'ibuprofène, dans mon exemple, on va le rejeter donc dans les égouts et il va arriver au niveau de la station d'épuration. Dans la station d'épuration, il ne va pas être éliminé totalement parce qu'il n'est pas biodégradable. Et si je fais une hypothèse qui est raisonnable, hein, que 2% seulement de l'ibuprofène qui est consommé va se retrouver rejeté dans la rivière, ce qui est encore une fois comme approximation assez raisonnable, et bien ça représenterait que sur une agglomération comme Poitiers, donc l'apport à la rivière, de nous, des habitants de Poitiers, ça serait l'équivalent de 20 comprimés d'ibuprofène rejetés par jour dans la rivière. Voilà, ça serait le poids de notre pollution des domestiques sur la rivière. Bon. Quand on prend en compte le débit de la rivière, hein, le Clain, mais ensuite la Vienne, si je me place au niveau du rejet du Clain dans la Vienne, ça, compte tenu du fort débit de la Vienne, ça représente une concentration très faible en ibuprofène. Hein. On reparlera des concentrations tout à l'heure. Mais voilà, c'est quand même un apport au niveau de Poitiers, un apport au niveau de chaque ville, et ça s'accumule donc dans les rivières. Donc voilà, pour vous dire que voilà, je vais plus m'axer sur la pollution domestique, mais ce qu'on rejette dans les eaux usées, hein, qui arrivent à la station d'épuration, ben, ce sont des médicaments, ce sont des hormones, des détergents, des cosmétiques, des produits vétérinaires, et tout un tas de cocktails différents, donc de médicaments, donc qui arrivent à la station d'épuration. Dans la station d'épuration, ils vont être en partie éliminés. Certains vont réagir, donc vont être transformés en d'autres composés. La station d'épuration va se rejeter dans la rivière. Dans la rivière, ces composés vont continuer leur petit bonhomme de chemin. Ils vont être aussi continuer à être transformés par les bactéries, par le soleil, par l'oxygène qui est contenu dans l'eau de rivière. Et ce qui fait qu'à partir déjà de cette multitude de composés que l'on a rejetés, on va se retrouver dans la rivière avec une très grande diversité de composés. Non seulement les composés initiaux, donc je parlais de l'ibuprofène tout à l'heure, mais aussi des produits de transformation de ces molécules, parce que ces molécules vont encore une fois se transformer et ne pas forcément rester telles quelles, stables dans l'environnement, parce qu'elles auront... Elles seront passées à travers la station d'épuration, la rivière. Et donc, quand on prélève pour produire donc de l'eau potable, quand on prélève notre eau de rivière, ben on va se retrouver avec une multitude de composés à traiter. Enfin, on va être confronté à tous ces composés que l'on souhaite éliminer, mais qui sont vraiment en quantité, en diversité très importante et en quantité très faible, en concentration très faible. Par rapport à la matière organique. Donc comment, avec le temps, comment a évolué cette problématique, je dirais ? Ben en fait, comme je vous disais tout à l'heure, dans les années 1900, le principal problème auquel on était confronté, enfin auquel on s'intéressait, c'est le risque bactériologique. Donc le premier traitement qui a été appliqué, c'est la désinfection, hein, pour éviter les maladies bactériennes. Ensuite, on s'est intéressé à l'assainissement, donc toujours pour des raisons sanitaires. Et ensuite, donc dans les années 1970, je dirais, sont apparues la première notion de polluants présents dans les ressources par la problématique des nitrates. Je ne vais pas en parler parce que nitrates sont encore une fois des composés inorganiques et je préfère me concentrer sur les micropolluants dont on entend parler dans les médias. Sachant que les nitrates sont présents, c'est pas du tout le même domaine de concentration par rapport aux micropolluants. Les concentrations sont bien plus importantes, mais on arrive à les traiter dans les stations de traitement d'eau potable très facilement. Ensuite, dans les années 80, sont arrivées la première problématique des micropolluants organiques, je dirais, avec, comme je vous expliquais tout à l'heure, la problématique des sous-produits de désinfection, c'est-à-dire la nécessité vraiment d'optimiser l'élimination de cette matière organique très concentrée pour éviter la formation de produits de désinfection par réaction avec l'eau de Javel. Puis, les techniques analytiques devenant de plus en plus performantes, on a mis en évidence de différentes classes de polluants, donc des hydrocarbures auxquels on s'est intéressé dans un premier temps, ensuite les pesticides, et puis atrazine et d'autres pesticides dont on entend parler. Puis, plus récemment, ce qu'on appelle la catégorie des perturbateurs endocriniens, donc qui modifient le système endocrinien, hormonal. Puis, la problématique des composés pharmaceutiques, qu'on a mis en évidence, encore une fois, dans les ressources en eau. Et puis, actuellement, plus on se rapproche vers aujourd'hui, plus on met en évidence d'autres composés. On s'intéresse aussi à la problématique des antibiotiques qui sont présents dans les ressources. Et puis, les métabolites, c'est-à-dire qu'on s'intéresse maintenant non seulement à la molécule initiale, comme je vous disais tout à l'heure, le médicament, l'hormone, le pesticide, mais on s'intéresse aussi aux métabolites, c'est-à-dire aux produits de transformation de ces composés. Donc on est conscient qu'il ne faut pas uniquement s'en tenir au composé initial, mais il faut se préoccuper de ce qu'est devenu ce composé et en quoi, s'il a été éliminé, en quoi il s'est transformé et a-t-on des données sur ces produits de transformation. Puis, plus récemment, on entend parler des microparticules et puis des composés perfluorés. Tout ça pour vous dire qu'encore une fois, au fur et à mesure de l'avancée des connaissances et des outils analytiques, on découvre différentes catégories de polluants qui peuvent être problématiques et pour lesquelles il faut s'interroger s'ils sont problématiques pour la santé. Mais l'origine n'est pas forcément les industries ni l'agriculture, comme on le pensait ou comme on le disait jusqu'à il y a 20 ou 30 ans. Ce n'est pas uniquement aussi le secteur médical, puisque l'émission de médicaments ne se fait pas majoritairement au niveau des hôpitaux, mais l'émission de médicaments est diffuse et se fait vraiment au niveau de chez nous tous, donc de toutes les habitations domestiques. Donc c'est pour ça que je pose la question « et nous ?» Il faut aussi prendre conscience qu'on est aussi responsable des polluants que l'on va trouver dans les ressources et peut-être de ce qui reste dans notre verre d'eau. Donc ces micropolluants dont je vous ai parlé, je vous ai dit, ils sont présents à très faible concentration, 1000 fois plus faible que la matière organique. Mais rentrons un petit peu plus dans le détail, essayons de visualiser un peu ce que ça représente et quel traitement on va appliquer sur ces polluants. Donc déjà, la définition, qu'est-ce qu'un micropolluant ? En fait, c'est un composé non présent naturellement qui résulte d'un apport extérieur et la majeure partie du temps lié à l'activité humaine. Et pour qu'il y ait la notion de polluant, il faut qu'il provoque une perturbation sur l'environnement ou sur le vivant, et ceci même à très faible dose. Donc sont concernées une très grande diversité de composés, vraiment, comme je vous montrais le schéma tout à l'heure, vraiment une multitude de composés, puisqu'il faut intégrer aussi certains de leurs produits de transformation. Bon, la difficulté, c'est qu'ils sont présents en très faible concentration par rapport à la matière organique, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, ça vous l'aurez bien compris. Donc, ils ne sont pas décelables sans outils analytiques performants. Et quand je vous dis performants, c'est vraiment grâce à l'évolution récente des techniques analytiques qu'on arrive à mettre en évidence de plus en plus de ces micropolluants. Donc, ils sont présents à l'état de trace par rapport à ce que j'appelle la grosse pollution, c'est-à-dire cette matière organique d'origine naturelle, ou la matière qui a été traitée par les stations d'épuration. Ils sont présents à l'état de trace parce qu'ils sont pas éliminés, ils n'ont pas été éliminés entièrement et parce que c'est eux qu'on cible en tant que polluants et donc on arrive à les détecter à des très faibles concentrations. Donc l'unité, c'est le microgramme par litre. Donc que représente le microgramme par litre? Donc c'est le millionième de gramme par litre. Alors que la matière organique, c'est le milligramme par litre, donc c'est le millième de gramme par litre. Donc comment on fait pour les mettre en évidence? C'est ce qu'on appelle les techniques chromatographiques. Donc là, on entend parler surtout dans les films. Donc c'est des techniques qui permettent, quand on introduit notre échantillon d'eau, mais après des étapes de concentration, parce qu'encore une fois, ils sont présents à très faible concentration, donc ça nécessite une étape de préparation de l'échantillon, on arrive à les détecter par des techniques chromatographiques, et donc ils sont mis en évidence sous forme de pics, donc comme on le voit ici. Seulement, ce que va analyser l'appareil, il va analyser certes les micropolluants, ce qui est considéré comme polluant, mais aussi, on va voir aussi, plein de pics qui correspondent à des composés qui ne sont pas des polluants. Donc le microgramme par litre, pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de moins d'un millionième de morceau de sucre dans un litre. Donc je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais c'est difficile à imaginer. Mais on verra d'autres images tout à l'heure. C'est, pour revenir aux médicaments, avec nos techniques analytiques et avec des concentrations de l'ordre du microgramme par litre, on est capable de détecter un comprimé dans une piscine. C'est-à-dire, si quelqu'un s'amuse à balancer un comprimé dans une piscine, eh ben, avec nos techniques, on est capable de vous dire, bah, tiens, il y a un tel qui nous a balancé un médicament ou un comprimé de paracétamol ou d'ibuprofène. Donc, tout ça dans une piscine. Pour revenir juste à la problématique des nitrates, c'est un million de fois plus faible que la concentration en nitrate. Donc encore une fois, c'est pas du tout la même problématique, c'est pas du tout la même approche. Donc pour revenir au traitement, je regarde un petit peu là parce que je parle. Donc on a vu tout à l'heure, donc à partir de nos eaux superficielles, donc nos eaux de rivière, le traitement de la matière organique, donc par coagulation, flocculation. On est arrivé au stade équivalent à une eau de rivière, une eau souterraine sur laquelle que l'on place à travers un filtre à sable pour éliminer les particules. Et puis il nous reste donc à nous intéresser à ces micropolluants, donc qui n'ont pas encore été éliminés par le procédé de coagulation flocculation ni par la filtration sur sable. Et donc cette étape d'élimination des micropolluants, elle doit arriver avant l'étape de désinfection finale, puisque je vous ai dit l'étape vraiment finale du traitement de potabilisation, c'est la désinfection. Donc comment éliminer ces micropolluants, maintenant qu'on sait un peu de quoi il s'agit et à quelle concentration on est confronté? Et je vous le redis, hein, ça veut dire qu'on a des micropolluants à des concentrations de l'ordre du microgramme par litre, en même temps que de la matière organique à des concentrations à 1 mg par litre, matière organique qui n'est pas problématique. Donc on doit s'attaquer à cette trace de polluants pour l'éliminer dans la filière d'eau potable. Donc en fait, on a trois principaux types de procédés pour s'attaquer à ces micropolluants avec des principes différents. Donc on a le principe de l'adsorbant. Donc c'est ce que pour éliminer les micropolluants. Donc ça, on en a tous entendu parler, c'est le charbon actif. C'est un matériau que l'on retrouve dans les carafes filtrantes ou dans les filtres d'aquarium en général. En fait, c'est un composé qui va fixer les micropolluants. Donc il faut imaginer que c'est un composé qui est très poreux, donc qui a plein de cavités, de micro-cavités, et l'eau en passant à travers ces lits de charbon actif qui sont des grains, ce charbon va retenir en fait les micropolluants que le charbon va voir passer. Donc on utilise soit du charbon actif en grains, donc sous forme de... Les ouvrages, ce sont des grands lits de charbon. Soit on peut utiliser du charbon actif en poudre et l'éliminer par le principe de coagulation-flocculation, comme tout à l'heure, pour éliminer ce charbon qui aura retenu les micropolluants. Donc la problématique, enfin l'inconvénient, je dirais, c'est que ce charbon va pas forcément retenir tous les composés, hein, tous les micropolluants. Il y a certaines, en fonction de ses propriétés chimiques, certains polluants ne vont pas être retenus. Et puis ayez en tête que bah, le polluant, on le transfère en fait. On le sort certes de l'eau, mais il reste dans le, au niveau du charbon. Donc il faudra se poser la question, qu'est-ce qu'on fait du charbon qui contient le, qui est chargé en polluant. Deuxième procédé, enfin famille de procédés qui sont utilisés, ce sont les procédés dégradatifs. Donc là, ce sont des procédés dont l'objectif, c'est pas de, de capter le micropolluant, c'est de le décomposer, de le dégrader, de le casser, pour le transformer en composé qu'on espère moins problématique et moins toxique. Donc ces procédés, ce sont soit de l'ozone. Donc c'est un gaz qu'on introduit dans l'eau et qui va réagir donc avec ses composés, soit des lampes UV, soit d'autres systèmes d'oxydation. Donc l'objectif, c'est de, encore une fois, cette fois, c'est pas de retenir le polluant en lui-même, c'est de le casser, de le dégrader. Ça forme des... L'inconvénient, c'est que ces procédés forment des composés de transformation. Hein, encore une fois, le polluant, il est dégradé, mais il est cassé, il n'est pas éliminé totalement. Et dans certains cas, ben, on ne connaît pas la nature des produits qui sont formés. Et donc souvent, on fait succéder ce procédé avec du charbon actif pour retenir les produits de transformation. Troisième catégorie de procédés dont on entend beaucoup parler, ce sont des procédés séparatifs. Donc là, il ne faut pas confondre. Donc ce sont les procédés membranaires. Ce sont des membranes. Donc il ne faut pas confondre avec le principe du charbon actif. Là, la membrane, l'eau va passer à travers la membrane qui contient des micro-trous. Et donc, il y a une partie de l'eau qui va se charger en micropolluants. C'est-à-dire on va laisser passer de l'eau qui va être débarrassée du polluant. Mais le polluant va rester dans une phase liquide et il va se charger de plus en plus, puisqu'il va être cette phase liquide résiduelle va être retenue par la membrane. Donc le polluant, il va être transféré, enfin il va rester dans la phase liquide, mais à une concentration bien supérieure dans une eau que l'on va évacuer. Encore une fois, c'est un procédé différent par rapport au charbon actif où le polluant va être fixé. Là, le polluant, il reste dans l'eau, mais il reste dans une phase concentrée, plus concentrée de l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle le concentrat. Donc on va avoir production soit d'une eau filtrée, débarrassée du polluant, mais on aura une partie de l'eau qui va être beaucoup plus chargée, elle, en polluant, et dont il va falloir se préoccuper également. C'est qu'un transfert, finalement, de polluant. Donc en fait, il existe, et là j'attire un peu votre attention, il existe différents types de membranes, et là encore dans les médias, on n'en parle pas. Donc les membranes, ce sont des matériaux, encore une fois, avec des trous de différentes tailles, différentes porosités. Ça va de la microfiltration, donc où les trous sont de l'ordre du micro, à la nanofiltration, où les trous sont donc 1000 fois plus faibles. Et en fonction de ce qu'on veut faire subir à l'eau comme traitement, ben on veut utiliser un type ou un autre type de membrane. Donc la microfiltration, elle n'est capable d'éliminer que les bactéries. Donc l'objectif, c'est de désinfecter. Donc quand on entend parler dans les médias de temps en temps, « Ah, Perrier, ils ont utilisé la microfiltration, ça prouve qu'ils ont des micropolluants et ça prouve qu'ils ont voulu éliminer les micropolluants », eh bien ça, c'est complètement faux comme discours. S'ils ont utilisé de la microfiltration, c'est uniquement pour éliminer les bactéries, puisqu'on sait très bien que la microfiltration, elle va avoir aucun rôle sur les micropolluants, puisque les trous vont être trop gros, en fait. Le procédé qui va réellement retenir les micropolluants, ce sont donc la nanofiltration, donc avec des trous de l'ordre du nanomètre, qui vont donc retenir, empêcher de passer donc les micropolluants, voire l'osmose inverse. Mais là encore, l'osmose inverse, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'osmose inverse, la barrière est tellement fine que ça va retenir même les composés inorganiques. Donc ça va même retenir les choses qui sont bonnes pour la santé. Et donc, il va falloir réenrichir votre eau traitée pour qu'elle devienne potable. Donc, concrètement, comment est faite une membrane ? Ben, comme j'ai essayé de vous expliquer, en fait, pour pouvoir faire passer de grands débits, bien sûr, à travers les membranes, il faudrait des surfaces énormes de membranes. Et donc, l'idée, ça a été d'enrouler ces membranes. Et donc, on obtient des cartouches, mais des cartouches qui, sur le plan industriel, qui font plusieurs mètres de haut et presque un mètre de diamètre. Et donc, qui contiennent des enroulements de membranes. Et l'eau passe, donc, à une extrémité, arrive à l'eau potable à traiter, arrive à une extrémité de la membrane. Et au fur et à mesure qu'elle va circuler vers l'autre extrémité de la membrane, donc elle va se diriger vers l'autre extrémité, ben elle va filtrer à travers ces enroulements de membrane, et on va se retrouver avec une eau donc épurée au centre de la membrane, et une partie de l'eau qui va être de plus en plus concentrée en polluants au fur et à mesure qu'elle va se diriger vers l'extrémité de la membrane. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va récupérer finalement deux types d'eau, une eau épurée et une eau beaucoup plus chargée en micropolluants. Donc ça c'est un type de membrane, hein, les membranes à enroulage. Et le deuxième type c'est les membranes à fibres creuses. Donc ça sur le plan domestique c'est beaucoup moins répandu, c'est surtout sur le niveau industriel. La même chose, l'idée ça a été de comment profiter d'une surface très grande de membrane avec un encombrement le plus faible possible. Mais en fait, il faut imaginer des spaghettis creux. Et donc, on va faire passer l'eau, rentrer l'eau à l'intérieur du spaghetti. Et puis, au fur et à mesure que l'eau va avancer avec un peu de pression, eh bien, l'eau épurée va sortir à l'extrémité opposée du spaghetti. Et puis, l'eau concentrée donc en polluant va rester à l'extérieur du spaghetti. C'est l'inverse, je fatigue. Donc l'eau va rentrer à une extrémité du spaghetti. C'est pas ça du tout d'ailleurs. Si, l'eau va rentrer à une extrémité du spaghetti, elle va être filtrée, donc traverser le spaghetti, sortir donc de l'intérieur du spaghetti vers l'extérieur. Et donc on va se retrouver à l'extérieur du spaghetti avec de l'eau épurée. Et à l'intérieur, à l'autre extrémité, de l'eau de plus en plus chargée, donc en micropolluants. Je vais y arriver. Donc voilà, en gros, trois procédés qui sont utilisés à viser d'éliminer les micropolluants, hein, le charbon actif, les procédés d'oxydation qui dégradent les polluants et les membranes. Donc nous voilà maintenant avec notre filière complète de traitement de potabilisation. Donc à partir d'une eau la plus complexe possible, donc partir d'une eau de rivière, faire un traitement de coagulation, flocculation, filtration sur sable. Donc on passe de l'ordre de 10 mg par litre à quelques milligrammes par litre en constituant organique. Mais dans cette eau, on n'a pas encore éliminé les micropolluants, qui sont de l'ordre du microgramme par litre, donc 1000 fois plus faible. Et sur cette eau, donc après filtration sur sable, donc on lui fait subir soit une oxydation, soit du charbon actif, soit des filtrations sur membrane. Parfois, ces procédés sont couplés dans le but d'éliminer les micropolluants. Et après cette étape donc d'éliminer les micropolluants, on passe de l'ordre du microgramme par litre de micropolluants à des concentrations inférieures à 0,1 microgramme par litre. C'est-à-dire qu'on peut éliminer minimum 90% du micropolluant, voire plus. En tout cas, c'est ce qu'on vise. Donc on se retrouve avec une eau, avec de la matière organique dans votre verre d'eau, que l'on ne voit pas, mais qui est relativement concentrée, hein, enfin relativement, qui est la plus concentrée, 1 mg par litre, par rapport au micropolluant, qui est donc 10 000 fois plus faible que la matière organique, donc de l'ordre de 0,1 microgramme par litre. Et cette eau, donc, on lui fait subir une chloration donc, à l'eau de Javel avant distribution. Ouais, allons-y. Si on veut se représenter encore différemment quelque chose qui est invisible, donc ces fameux micropolluants, et pour savoir ce qu'il y a dans notre verre d'eau, Imaginez une pièce classique de taille d'un bureau ou d'une chambre, donc de 3 mètres sur 4 mètres, avec une hauteur de plafond de 2,50 m. Donc ce volume, imaginez cette pièce, imaginez qu'elle est remplie d'eau. Donc ça fait 30 mètres cubes d'eau. Donc qu'est-ce qu'il y a dans notre rivière au départ, dans ces 30 mètres cubes d'eau? Et bien dans ces 30 mètres cubes d'eau, les fameux 10 mg par litre de matière organique, c'est l'équivalent d'une tablette de beurre, en fait. Donc dans 30 mètres cubes d'eau, dans une salle remplie d'eau, vous auriez en quantité de matière organique l'équivalent d'une tablette de beurre. La coagulation-flocculation, donc qui est appliquée sur les eaux de rivière, ramène notre tablette de beurre à quelques morceaux de sucre. Donc voilà, l'efficacité du traitement fait qu'on abat donc cette quantité de matière dans nos 30 mètres cubes et on se retrouve avec donc quelques morceaux de sucre dans nos 30 mètres cubes d'eau, donc qui est ce que contient notre verre d'eau en termes de matière organique. À ça s'ajoutent les micropolluants que l'on va devoir éliminer. Donc dans notre verre d'eau, après coagulation-flocculation, on a nos morceaux de sucre dans nos 30 mètres cubes et nos micropolluants sont présents, représentent à l'échelle du microgramme par litre, représenteraient de l'ordre de 10 grains de riz dans nos 30 mètres cubes. Voilà la quantité de micropolluants qui seraient présents dans votre eau de rivière ou dans votre eau souterraine éventuellement. Voilà, pour essayer d'imaginer la quantité que ça représente. Ensuite, on cherche à éliminer donc les micropolluants avec une consigne, donc un objectif qui est de les réduire au minimum, de passer inférieur à 0,1 microgramme par litre. Et ce 0,1 microgramme par litre, donc qui est la quantité finale dans votre verre d'eau qui pourrait rester, ça représente moins d'un grain de semoule dans toute votre salle inondée d'eau, donc dans les 30 mètres cubes, la quantité de micropolluants que vous avez, c'est moins d'un grain de semoule. Voilà ce que ça représente. Hein, donc vous auriez quelques morceaux de sucre plus moins d'un grain de semoule dans 30 mètres cubes. Sachant que la quantité d'eau qu'on boit dans toute une vie, c'est 50 mètres cubes. Donc là, on n'est pas très loin. Hein. Je vous parle de un grain de semoule dans 30 mètres cubes. Dans toute une vie, on boit à peu près 50 mètres cubes d'eau. Si on fait le calcul avec la quantité éventuellement de médicaments qu'on pourrait retrouver dans certaines eaux, qui est vraiment très faible et encore inférieure aux 0,01 microgramme par litre, hein, les quantités que l'on retrouve dans l'eau potable, ça représente moins d'un comprimé sur toute une vie. C'est-à-dire, si vous buvez les 50 mètres cubes d'eau qui seraient contaminés avec votre soi-disant médicament à des concentrations inférieures à 0,1 microgramme par litre, si vous buvez cette eau pendant toute votre vie, donc qui représente 50 mètres cubes, ça représente que l'apport en médicaments par votre eau de boisson, c'est inférieur à un comprimé sur toute une vie. Donc voilà, là c'est l'exemple du médicament. Bon, à l'heure actuelle, dans les eaux potables, on a un certain nombre de composés qui sont réglementés. Donc on a 70 composés à peu près qui sont réglementés et qui incluent une grande quantité de ces fameux micropolluants dont la concentration ne doit pas être dépassée et que l'on doit traiter. Donc à l'heure actuelle, compte tenu des techniques analytiques, on arrive effectivement à analyser tous ces composés qui sont réglementés. On arrive aussi à mettre en évidence ce qu'on appelle des contaminants émergents, dont on soupçonne une problématique, mais qui ne sont pas encore complètement... dont la toxicité n'a pas été encore complètement démontrée et qui, pour certains, ne sont pas réglementés. Donc, c'est le triangle orange. Et puis, on a une grande quantité, donc encore une fois, je vous parle des composés qui sont présents dans votre verre d'eau, hein. On a dans les 1 mg par litre de matière organique, en plus des micropolluants, ben on a plein de composés hein, qu'on n'a pas tous identifiés hein, et pour lesquels on ne connaît même pas la concentration parce que ben on a, pour connaître déterminer une concentration, faut avoir des étalons. Et donc, comme pour la plupart, ce sont des composés de transformation, hein, transformation biologique ou par le soleil, et ben, ces composés, ils ne sont pas commercialisés. Donc, Ils font déjà qu'on les identifie et ensuite que, bah, qu'on arrive à les quantifier. Et pour les quantifier, bah, faut qu'on synthétise les étalons. Donc on a toute une catégorie de composés qu'on peut mettre en évidence, mais dont on n'a pas toutes les connaissances. Et puis pour la plupart et la très large majorité, qui ne sont pas des contaminants et qui sont majoritaires, encore une fois. Donc les techniques analytiques que l'on utilise, ben, je vous en ai parlé, donc je vais passer rapidement. Donc c'est la technique de chromatographie couplée à de la spectrométrie de masse qui fait qu'à l'heure actuelle, dans l'eau du robinet, on arrive à mettre en évidence plus de 2000 composés, donc dans l'eau du robinet. Encore une fois, des composés pour lesquels on n'est pas capable tous de les quantifier. Et pour les identifier, ben, faut qu'on creuse, faut qu'on passe du temps. Et qui sont présents à très très faible concentration pour la plupart, et qui ne sont pas polluants pour la majorité, pour la très large majorité d'entre eux. Donc pour là, je vous présente vraiment l'état des connaissances au point de vue recherche. Hein, on en est vraiment à ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc la technique de chromatographie couplée à spectrométrie de masse, pour vous imaginer, c'est des pics. On obtient des résultats d'analyse. Donc ce sont des pics. Imaginez des pics que l'on arriverait à mettre en évidence sur une plaque. Donc on a une plaque avec plein de pics et chaque pic représente un composé. Donc sur cette plaque, on aurait plus de 1000 ou 2000 composés. Dans les eaux de rivière, on en aurait plus de 10 000. Et ces pics, ben, sont plus ou moins grands en fonction de la concentration des composés. Mais ce qui complique, c'est parce que ça serait trop facile. Un pic d'un composé qui est deux fois moins grand que le pic d'un autre composé, c'est pas pour ça qu'il est deux fois moins concentré. Parce que la technique analytique fait que la réponse n'est pas la même en fonction des composés. Donc on n'est pas capable de quantifier ces composés si simplement que ça. Encore une fois, il faut des étalons, il faut des calculs, et c'est pas si simple. Donc si je représente cette forêt de pics par un code couleur en fonction de la hauteur des pics, bah, ça donne un petit peu l'allure du graphe de droite où chaque groupe de couleurs correspond à une gamme de concentration ou de hauteur de pics. En fait, on appelle ça la technique d'analyse par empreinte non ciblée. Non ciblée parce qu'on n'est pas capable d'identifier tous ces composés, et empreinte parce qu'en fait, chaque eau a sa propre signalétique, en fait. Hein. C'est comme une empreinte, en fait. Et dans une rivière, bah, si vous faites l'analyse de l'eau en amont ou en aval de Poitiers, par exemple, bah, vous n'aurez pas la même empreinte, le même signal, qui est propre à l'eau, qui est propre au temps de prélèvement, et qui est propre au lieu, à l'endroit où on a fait le prélèvement. Donc les pistes futures pour conclure. Donc pour résumer, et puis pour lancer un petit peu le débat, donc les faits et ce qu'on sait. Bah, l'eau potable, c'est l'aliment le plus surveillé et le plus réglementé à l'heure actuelle. Donc j'ai pas parlé de la réglementation, mais encore une fois, tous les polluants qui sont identifiés, les micropolluants qui sont identifiés comme potentiellement problématiques, ne doivent pas dépasser une certaine teneur dans les eaux distribuées aux consommateurs. La difficulté, comme j'espère que vous avez bien compris, c'est de déceler la trace de l'indésirable parmi l'inoffensif et qui est présent à beaucoup plus forte concentration. Encore une fois, matière organique et micropolluants moins de 1000 fois, 10 000 fois plus faibles en concentration. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je vous ai parlé de composés initiales et de contaminants qui se transforment. Le fait qu'un contaminant se transforme, ça ne veut pas dire qu'il se transforme en contaminant aussi toxique et que la toxicité va augmenter. Dans la plupart des cas, quand un contaminant se transforme, hein, que ce soit dans le milieu naturel ou dans certains procédés de traitement d'oxydation, par exemple, bah, globalement, ça se transforme en produit dont la toxicité diminue. C'est, c'est, C'est généralement le cas. Donc quand vous entendez dans les médias, j'ai un enregistrement si vous voulez, entendre « Ah ben vous imaginez, dans cette eau, on a identifié tel composé, mais il faut savoir que ce composé est capable de donner 50 produits différents de réaction. » Donc vous imaginez la toxicité, comment elle augmente. Ben, ce discours-là, il est complètement faux. Parce que c'est pas parce que votre composé va donner 50 composés différents en produits de transformation que la toxicité va augmenter 50 fois plus. C'est complètement faux. Globalement, au contraire, la toxicité, il y a de grandes chances qu'elle diminue. Les actions, donc, et les besoins, je dirais. Nécessité de disposer des informations sur la ressource, car vous l'aurez bien compris, et ben notre verre d'eau, il est produit à partir de la ressource. Donc plus on aura de données sur la ressource, plus on saura quoi chercher au niveau de la filière de traitement pour les éliminer s'ils sont problématiques. Donc l'origine des pollutions, l'origine est multiple, hein, ça peut être agricole, ça peut être urbaine avec le ruissellement, avec l'infiltration, c'est-à-dire même les eaux souterraines peuvent effectivement contenir des micropolluants parce que l'eau va s'infiltrer. On connaît effectivement, on serait capable de chercher les composés autorisés et mis sur le marché, commercialisés, mais encore une fois, il y a la difficulté des produits de transformation dont il faut s'intéresser aussi. Et c'est le cas notamment des pesticides, où on s'intéresse aux produits de transformation, et dans les normes de potabilisation, maintenant, les normes prennent en compte les produits de transformation. C'est-à-dire que ça nous protège aussi sur l'aspect produits de transformation, et pas uniquement pesticides initiales. De nombreuses données donc à exploiter, hein, vous avez bien vu, j'ai plus de 1000 composés dans mon verre d'eau, donc à explorer, à connaître la toxicité, à exploiter. Et puis, j'en reparlerai juste sur la diapo après, développer peut-être des tests globaux, c'est-à-dire plutôt que de chercher molécule par molécule, là, toutes ces molécules, qui est un travail énorme, peut-être qu'il faut plus réglementer sur l'aspect tests globaux et résultats globaux d'un ensemble de composés, en fait. En tout cas, je pense que l'orientation, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la nécessité de préserver les ressources, hein, et voire de les restaurer. Et puis, je vous ai quand même beaucoup parlé des stations d'épuration dans lesquelles on déverse tous nos polluants, et que la station d'épuration n'est pas capable de traiter forcément tous ces micropolluants. Il y a des nécessités d'améliorer donc les efficacités et les performances des stations d'épuration qui sont basées sur des principes quand même très anciens, assez anciens. Et donc c'est là-dessus que l'on est aussi en train de travailler, enfin que les traiteurs d'eau travaillent, c'est-à-dire qu'on essaie d'améliorer donc l'efficacité des stations d'épuration pour ne pas retrouver ces polluants dans les rivières et donc pour ne pas avoir à les traiter. Donc des interrogations, donc là c'est pour vous dire la difficulté un peu de la problématique, hein. C'est qu'on connaît à l'heure actuelle la toxicité d'un certain nombre de composés, hein, de constituants et des produits de transformation, mais la problématique c'est que dans une eau on a un mélange de composés, et la toxicité ne s'additionne pas forcément. Des fois il y a des effets qui s'additionnent, des effets qui s'additionnent pas, qui s'annulent. Et donc, la difficulté de trouver l'effet, le niveau de toxicité d'une eau avec un mélange de composés, même si on connaît la concentration de ces composés, il ne suffit pas d'ajouter la toxicité de ces éléments individuellement. Donc, les études actuellement qui sont menées, ce sont ce qu'on appelle des études épidémiologiques, c'est-à-dire voir vraiment l'impact d'une eau sur toute une population, une large population, pour vraiment connaître l'impact. Et puis, ce qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est l'apport alimentaire. C'est-à-dire que l'eau, effectivement, vous en consommez 1,5 litre ou 2 litres par jour, mais vous avez un apport de contaminants énorme également par l'aliment. Les données, c'est que l'apport en contaminants par l'eau, ça représente 5% de l'apport global que vous avez quotidiennement. 95% de l'apport de contaminants par l'apport alimentaire et 5% par l'eau. L'autre question, moi, que je me pose, et c'est un débat qu'on peut lancer, hein, c'est que si vous y réfléchissez, l'eau potable sur laquelle on a mis des efforts et des efforts à faire pour la produire de qualité extrêmement, extrêmement bonne et pour éliminer tous ces micropolluants, en fait, il n'y en a que 5% qu'on utilise réellement pour boire, donc de l'eau du robinet. Le reste, on la balance dans les toilettes et dans la douche, etc. Donc c'est une question qu'on peut se poser. Hein. Dans certains pays, ils trouvent ça scandaleux de ce qu'on fait, qu'on balance de l'eau potable dans nos toilettes. Ça, pour certains pays, c'est inadmissible. Et c'est si difficile à accepter. Donc voilà, une réflexion qu'on peut avoir. Après, il y a la question du transfert des traitements d'eau. Si on veut vraiment affiner le traitement d'eau, est-ce qu'il faut le transférer au consommateur, au niveau du consommateur, au niveau du robinet ? Faut être conscient des risques, des connaissances. Comme ça, je vous parlais des membranes. Hein. Quand on vous choisit une membrane, faites bien attention au type de membrane qu'on vous propose. Il y a des problèmes d'entretien. Je vous ai dit, le risque principal, c'est le risque bactérien. Il faut être conscient que si on applique des traitements au niveau du consommateur, bah, il faut vraiment bien maîtriser aussi le risque bactérien. Des choix difficiles. Bon, je vous ai parlé de l'eau potable que l'on jette dans les toilettes. Je vous ai parlé des médicaments en vous disant que les médicaments, ce n'est pas que les hôpitaux qui rejettent majoritairement les médicaments. C'est vrai, de plus en plus, le rejet de médicaments se fait au niveau des agglomérations et au niveau des usages domestiques. Pourquoi ? Parce que les traitements ambulatoires se sont développés. Donc c'est vrai que s'il y avait moins de traitements ambulatoires, les hôpitaux pourraient peut-être mieux traiter, en tout cas concentrer la pollution par les médicaments, serait concentrée plus au niveau des hôpitaux, et on pourrait s'intéresser plus facilement peut-être à cette problématique. C'est une question, encore une fois, de conscience, et pour laquelle je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il faut limiter les traitements ambulatoires, mais d'un autre côté, on diffuse plus de médicaments, qu'on les répartit, on les distribue partout? Ou est-ce qu'il faut rester à l'hôpital ? Voilà. Question à se poser. Même chose pour les fameux PFAS dont on entend parler, hein, les polluants éternels. Eh bien, il faut savoir qu'ils sont utilisés beaucoup dans les produits des pompiers, hein, comme retardateurs de feu, y compris au niveau des incendies de forêt, certains... Bien localisé. Hein. Je ne dis pas que c'est les produits que l'on voit qui sont colorés, hein, ce n'est pas ça. Mais c'est des produits en fait, qui ralentissent le feu. Ce sont des produits qui sont aussi présents sur nos canapés et dans certains tissus pour empêcher, pour que ces produits soient ignifugés et soient moins problématiques en cas d'incendie, enfin diffusent moins les incendies. Donc voilà, même chose. Est-ce qu'il faut arrêter l'utilisation de ces produits et laisser les feux se diffuser beaucoup plus ? Je vous ai parlé un petit peu des apports alimentaires. Ben, en fait, sur les réglementations, quand on y réfléchit, sur les réglementations alimentaires, les teneurs en certains pesticides ou certains composés dans les aliments, ça ne doit pas dépasser. L'unité, c'est le milligramme par kilogramme. Et dans l'eau potable, c'est le microgramme par litre, c'est-à-dire microgramme par kilogramme. C'est-à-dire, dans l'eau potable, on nous impose des limites 1000 fois plus faibles en ordre de grandeur que dans les aliments. Et on entend parler beaucoup d'eau potable. Dernier point, je crois, que l'on va discuter. Enfin, après, c'est fini, hein, rassurez-vous. Autre point... Ayez à l'esprit que, encore une fois, on consomme 1,5 litre d'eau par jour et on respire 10 mètres cubes d'eau, 10 mètres cubes, pas d'eau, non, d'air par jour. Donc voilà, on consomme 1,5 litre par jour et on respire 10 mètres cubes d'air. Air qui peut contenir des PFAS, des pesticides et voilà, d'autres choses. Juste pour se mettre un petit peu, remettre les échelles à leur juste milieu. Après, donc, des anticipations. Bon, on entend parler beaucoup du changement climatique. Donc, c'est des paramètres qu'il va falloir anticiper. Parce que le changement climatique, il va modifier la composition des eaux auxquelles on va être confronté pour traiter et pour les transformer en eau potable. Parce que les épisodes de sécheresse vont concentrer certains constituants, vont les modifier parce que la température va varier. Donc les propriétés de certains constituants vont être changées. Et donc l'optimisation de nos stations d'eau potable va peut-être devoir être revue différemment parce qu'on va être confronté à des composés dont les propriétés auront un peu varié. Donc il va falloir s'adapter et anticiper donc ces effets des changements climatiques, sans parler donc des épisodes de précipitations intenses et des ruissellements, là encore qui vont amener des composés davantage dans les rivières, et puis les phénomènes de déforestation ou désertification qui vont effectivement accentuer les phénomènes de lessivage, et en tout cas la végétation retiendra moins une végétation que l'on élimine retient moins certains polluants. Voilà, cette fois j'ai fini. Donc voilà, j'espère que vous savez un petit peu mieux ce que vous avez dans votre verre d'eau, que vous allez pouvoir écouter les émissions un peu différemment. Si vous voulez des compléments d'information de ce que j'ai dit, j'ai constitué ce qu'on appelle un web document, c'est-à-dire sur Internet, on a accès à un document un peu pédagogique où il y a des ramifications. Donc on peut se promener vers comment fonctionne une station d'épuration, comment fonctionne une station d'eau potable. Vous allez pouvoir visiter la station d'eau potable, plonger dans l'ouvrage qui fait de la coagulation-flocculation, voir comment est conçu un filtre de charbon actif. Donc tout ça, c'est dans un document interactif disponible sur Internet, donc à cette adresse-là, donc un document que j'ai construit avec des collègues pendant le confinement. Je vous remercie tous, vraiment. Merci.
Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante à laquelle je n'ai pas tout compris, mais j'ai quand même compris certaines choses. Vous nous avez parlé de tous les indésirables qu'on cherchait à retirer pour purifier l'eau. D'accord. Par contre, à la fin, on rajoute quelque chose, c'est de l'eau de Javel. Combien ? Est-ce qu'on a une idée du pourcentage ? Est-ce que ça varie en fonction des lieux, en fonction de l'état de l'eau ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, en fait, ça varie en fonction de la... L'objectif, c'est d'éliminer, d'éliminer totalement donc, les bactéries pathogènes. Donc, on optimise la quantité d'eau de Javel que l'on introduit pour avoir zéro bactéries pathogènes. Donc, en général, d'un jour à l'autre, ce dosage varie peu parce que la qualité de l'eau ne varie pas tant que ça. Et les quantités, donc cette quantité d'eau de Javel que l'on ajoute dépend aussi de la teneur en matière organique, parce que cette matière organique peut jouer aussi sur la consommation d'eau de Javel. Ce qu'on ajoute, on ajoute aussi cette eau de Javel pour qu'il soit persistant jusqu'au robinet, c'est-à-dire pour que la sécurité soit assurée jusqu'au robinet avec un résiduel. C'est pour ça que de temps en temps, il y a un petit goût, surtout en période de forte précipitation. Les ordres de grandeur, je dirais, c'est de l'ordre de 0,5 mg par litre d'eau de Javel. Donc, c'est pas un micropolluant, c'est un réactif, quoi.
Bonjour, merci.
Bonjour.
Vous n'avez pas parlé, je ne sais pas si c'est le terme exact, des radiations de l'eau.
Parce que c'est pas mon domaine.
D'accord. Qui est une forme de pollution ou pas ?
Oui, c'est réglementé, mais là je connais pas du tout la réglementation, mais c'est inclus dans les normes de potabilité. Ce que je dirais aussi, je peux pas vous en dire plus, parce qu'en termes d'unité, etc., c'est pas mon domaine. Ce qu'il faut être conscient, c'est que là encore, c'est comme les micropolluants, je dirais. On en reçoit beaucoup par l'atmosphère, beaucoup, beaucoup. Donc, quelle est la quantité réellement qui est apportée par l'eau par rapport à tout ce qu'on reçoit quotidiennement ? J'ai un doute que l'eau soit vraiment significative en apport. mais je ne peux pas vous en dire plus.
Merci beaucoup pour cette conférence qui est très claire, bon, avec plein de questions. Alors, j'avais la question de la Javel parce que au niveau ménager, c'est utilisé et dans quelle mesure ça sert à quelque chose et que ça ne va pas, aggraver le fait... le fait qu'on conserve de la Javel pour tout et n'importe quoi en ménager. Il y a des produits aussi antibactériens, je vois, dans le commerce. Est-ce que, justement, ça ne nuit pas après quand on voudra désinfecter l'eau?
Bah, en fait, l'eau de Javel, je dirais, quand vous allez l'utiliser, elle va être consommée très rapidement. Donc, il ne va pas y avoir de résiduel ou très peu de résiduel d'eau de Javel dans l'eau que vous allez balancer dans les égouts.
Ma question, c'est parce que j'ai travaillé à l'hôpital et ils faisaient des chocs chlorés. Et effectivement, ils avaient beaucoup de problèmes parce que, hein, je ne dis pas de bêtises, les chocs chlorés, ils étaient obligés d'en faire de plus en plus et je me dis, est-ce que c'est indispensable? Il n'y a pas d'autres produits moins toxiques en produits ménagers? Non, je pensais à ça, j'ai une idée derrière la tête, c'est il y a d'autres produits qu'on peut utiliser et on n'a pas de à domicile, on vit avec en réduit, on n'a pas besoin de tout décontaminer, c'est ça.
On a travaillé avec l'hôpital, avec le CHU de Poitiers, hein, sur cette problématique. Ouais. En fait, effectivement, quand on utilise les fameux chocs de chlore, effectivement, là, par contre, si on n'optimise pas la dose de chlore, on en rejette dans les égouts. Et il y en a une partie qui réagit avec les matières qui sont dans les égouts et on peut former des produits de désinfection qu'il va falloir ensuite éliminer. On a comparé l'effet par rapport à des nouveaux produits, effectivement, des biocides qui sont commercialisés, qui sont également utilisés dans les hôpitaux, sauf que ces biocides, ils présentent eux aussi une certaine toxicité. Et ces biocides, en général, ils sont plus rémanents que l'eau de Javel, qui en général va se transformer en chlorure et puis c'est fini. Donc tout ça, c'est à optimiser. Ce qu'on en a conclu donc sur l'étude du CHU, c'est que d'une part, mais ça confirme ce que vous dites, comme on l'utilise aussi chez les particuliers, à l'hôpital, il pollue pas plus que chez les particuliers. Et en fait, ce qu'il faut vraiment veiller, c'est optimiser les doses. C'est-à-dire ne pas, par exemple, quand vous préparez votre seau pour nettoyer avec votre détergent, essayez qu'à la fin de votre nettoyage, il n'y ait plus d'eau dans votre seau. C'est-à-dire vous utilisez juste la juste dose nécessaire pour ne pas balancer trop un excès de détergent dans vos toilettes. Et dans les hôpitaux, il y a d'autres techniques qui commencent à se développer. Il y a les UV, il y a les vapeurs, les traitements de certaines surfaces ou de certaines salles par des vapeurs. Donc il y a des procédés de substitution qui sont en train de se développer par rapport aux produits chimiques. C'est en cours.
Vous avez parlé tout au début du, je ne sais pas si je vais bien dire le mot, du chlorothalonil, c'est bien ça?
Oui, c'est bien.
Et dans l'année qui vient de s'écouler, il y a eu toute une polémique, en particulier dans les journaux localement, avec les villes qui en avaient trop. Entre autres, dans la région de Poitiers, on essayait d'alerter les habitants. Et puis tout d'un coup, on n'en a plus du tout parlé. Alors, quelle est la réalité de cette histoire? Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a quelque chose à craindre?
Sur le chlorothalonil, en fait, quand la teneur dans la ressource était vraiment très importante et que la station d'eau n'était pas capable d'éliminer suffisamment bien ce composé, la ressource a été arrêtée. Après, il y a d'autres endroits ou d'autres forages où il y a du chlorothalonil, mais à des concentrations plus faibles, et que la station d'eau potable peut en partie éliminer. Ensuite, le problème sur le chlorothalonil, c'est qu'il y a différents niveaux, je ne vous ai pas parlé des normes, mais il y a différents niveaux de normes. Sur le chlorothalonil, vous avez une valeur de qualité à ne pas... Si la valeur ne dépasse pas 0,1 microgramme par litre, ça veut dire que l'eau est... Voilà, vous avez respecté la norme de qualité. Après, vous avez une concentration de vigilance, ce qui est de 0,9 microgramme par litre. Mais les 0,1 microgramme par litre, encore une fois, c'est une qualité. Ce n'est pas, un seuil sanitaire. C'est-à-dire, si vous dépassez les 0,1, ce n'est pas pour ça que votre eau va être dangereuse sur le plan sanitaire et sur la santé. Les 0,9 microgrammes par litre, donc qui sont supérieurs, c'est un seuil de vigilance. C'est attention, attention, surveillez, parce que si vous dépassez, bah, vous allez petit à petit vous diriger vers, vers une valeur que vous n'arrivez pas à maîtriser. Donc, mais encore une fois, tant qu'on ne dépasse pas les 0,9, l'eau est considérée comme potable parce qu'on n'a pas dépassé le seuil sanitaire. Voilà. Ça dépend des forages, ça dépend des endroits. Je ne saurais pas vous dire. Toutes les analyses sont disponibles sur le site du ministère de la Santé. Donc, vous pouvez consulter les analyses, peut-être pas quotidiennement, mais plusieurs fois par semaine, qui sont mises à jour en général. Je ne peux pas vous répondre parce qu'il y a vraiment différents forages. Donc, je ne peux pas vous répondre. Mais en tout cas, encore une fois... Si l'eau ne dépasse pas le seuil de 3 microgrammes par litre, qui est le seuil sanitaire, là par contre, votre eau est potable. Si vous dépassez ce seuil-là, y a une décision qui est prise, soit arrêt du forage, donc distribution à partir d'une autre source, soit, encore une fois, c'est un seuil sanitaire, mais qui est calculé sur la consommation de l'eau sur toute une vie. Donc, c'est le préfet qui va décider si le fait de distribuer une eau qui dépasse ce seuil pendant quelques jours ou quelques semaines, est-ce que ça a vraiment un impact sur la santé ? Et là, il va s'appuyer sur les données de l'ANSES, sur les études de toxicité qui ont été faites. Après, ce qu'il faut être bien conscient aussi, c'est que la décision d'arrêter un forage, soit on prend une eau ailleurs et on distribue, et donc il n'y a pas d'arrêt de distribution d'eau à la population, mais s'il y a réellement arrêt de distribution à la population, avec distribution par exemple de bouteilles d'eau pour un temps défini, il faut être bien conscient de mesurer le pour et le facteur risque et gain, je dirais. Parce que ne pas distribuer de l'eau, enfin arrêter, c'est-à-dire arrêter la distribution d'eau, ça veut dire que le distributeur, il coupe la vanne, vous n'avez plus d'eau à votre robinet. Quelles sont les conséquences sur vos toilettes, là du coup, qui n'ont plus d'eau, et mesurer, donc peser entre le risque sanitaire que va engendrer votre coupure d'eau par rapport au risque que vous allez limiter, peut-être de consommer cette eau pendant un temps très limité, le temps que le traiteur d'eau trouve une solution. Voilà, c'est tout ça que le préfet doit prendre en compte.
Oui, merci encore pour cette excellente conférence. Moi, je voulais juste savoir, vous avez parlé des métaux lourds. Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils rentrent aussi dans les, alors c'est pas des micropolluants, c'est des composés minéraux, mais est-ce qu'il y a est-ce qu'on évalue aussi leur taux de toxicité?
Ils sont inclus dans la réglementation. Là, du coup, leur toxicité est connue, ils sont réglementés et ils sont, leurs traitements sont
les mêmes.
On connaît les traitements. Non, c'est pas les mêmes. Hein, j'en ai pas parlé.
D'accord.
Parce que ce sont des résines qui fixent les métaux lourds. Mais tout ça, c'est réglementé. Enfin, les métaux lourds dangereux pour la santé sont inclus dans la norme de potabilisation. Donc le plomb, le mercure. Et effectivement, ça rentre là du coup dans l'autorisation du terme eau potable ou eau non potable.
D'accord, merci.
Oui, je voudrais intervenir sur la méthode globale par rapport à la méthode de spectrométrie avec des séparations. La méthode globale consisterait à avoir une sorte de cocktail, en fait, et d'accepter un cocktail global vu la diversité des molécules qu'il peut y avoir.
Ça serait un test, plutôt qu'un test chimique, ça serait un test biologique, je dirais. C'est-à-dire faire passer l'eau en contact de micro-organismes, ça existe déjà, hein, y a des larves de crustacés qui sont utilisées pour que le micro-organisme, pour qu'en fonction du comportement du micro-organisme, on juge de la dangerosité ou non de l'eau, de la toxicité. C'est-à-dire que s'il y a 50% du micro-organisme qui fait la tête, ben on se dit l'eau, elle est trop polluée. La difficulté, c'est que les polluants sont présents à tellement faible concentration qu'on n'a pas encore défini de trouver de micro-organismes suffisamment sensibles qui puissent répondre à ces très faibles teneurs de composés. Mais sinon, ça serait l'idéal. C'est-à-dire que, comme c'est très, très difficile d'avoir une analyse exhaustive de tous les polluants, et c'est tellement différent d'une eau à une autre, de faire passer l'eau et de voir son comportement, son impact sur un micro-organisme ou sur plusieurs organismes, ben, on aurait la réponse. S'il y a un effet sur le micro-organisme, on fait des corrélations avec, avec l'humain et on a déjà des réponses complémentaires de la chimie. Mais le problème, c'est que, ben, encore une fois, on n'a pas de tests suffisamment sensibles. C'est-à-dire une eau qui pourrait être non potable, ben, elle peut très bien ne pas rendre le micro-organisme mal à l'aise. Voilà.
Merci, madame. Merci pour toutes ces questions.
Bon, on va en parler. Merci beaucoup.